à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Renaissance et Renaissance. Donc je le redis une dernière fois, Renaissance au pluriel et Renaissance au singulier pour parler de la Renaissance et dire à quel point il faudrait plutôt parler des Renaissances. Vous connaissez mon invité permanent à cette émission qui est en fait celui qui nous dispense tous les savoirs autour de ces questions, Philippe Frétinier. Bonjour Philippe. Alors, lors de la première émission, vous nous aviez défini un peu la question de la Renaissance et justement défini, comme vous l'aviez fait précédemment par le baroque, avec toutes les réserves que vous y mettez. Lors de l'émission qui a précédé celle-ci, vous êtes revenu sur des éléments d'histoire, notamment autour du XIIe siècle et même avant, pour revenir un peu plus près de la période dite de la Renaissance, et vous avez évoqué Montaigne par exemple comme un exemplaire dans la démarche liée à la Renaissance, et vous vouliez aujourd'hui revenir sur un autre personnage emblématique extrêmement important pour vous dans cette question qui est Pétrarque. Est-ce que vous pouvez nous situer Pétrarque?
Alors c'est un érudit poète, fin 13e, début 14e siècle. Il faut en parler pour plusieurs raisons. La plus importante étant que c'est vraiment lui qui introduit finalement la notion qu'on a tous en tête, c'est-à-dire que la Renaissance serait une rupture et qu'avant, comme il le dit d'ailleurs dans certains de ses textes, c'était les ténèbres. Alors pour bien comprendre, comme j'ai déjà parlé des Renaissances, il y a au fond deux conceptions de l'histoire, pas seulement de l'histoire de l'art, mais c'est soit un continuum d'un progrès qui se démentirait pas au fil du temps, soit au contraire des ruptures avec une révolution ou un personnage, en tout cas, qui donne vraiment une impulsion d'un nouveau tournant. Par exemple, Galilée, au début du XVIIe. Comme vous savez, j'aime souvent employer, dans une autre émission, mais même là, j'ai commencé à le faire, à cette idée qu'il y avait les deux, finalement, c'est-à-dire que l'un n'exclut pas l'autre. Pétrarque va être celui qui exclut l'autre, c'est-à-dire que pour lui, alors c'est une idée totalement révolutionnaire, il y a eu depuis la Rome antique, c'est-à-dire la Rome de la République, la Rome impériale, un déclin, et il appelle de ses voeux, il entrevoit dans son temps les ferments d'une nouvelle ère. Et ces ferments, pour lui, ce sont Dante, c'est pour ça que j'en ai parlé la dernière fois, et que ça a peut-être surpris comme pré-initiateur de la Renaissance, et puis Giotto. L'idée qu'il a, en fait, c'est donc que l'art progressivement, pour lui, c'est le plus important, c'est dans les lettres, l'idée qu'il y a une espèce de déclin. Et donc, forcément, qu'il va falloir qu'il y ait un renouveau avec ce retour à l'antique, parce qu'il a été très très marqué par les traces de Rome, de la Rome antique dans Rome, où il voit vraiment l'idéal de perfection classique.
Il faut dire que quand on va à Rome encore aujourd'hui, on est aussi tout à fait marqué par voilà. Les traces de l'antique.
Et donc il compare avec ce qu'il voit et il dit « bon, il y a vraiment eu un déclin ». Alors vous voyez comme quoi même les grands hommes peuvent se tromper et manquer de vision d'envergure, parce que j'ai un petit peu introduit cette idée-là, que dans l'idée du continuum, au contraire, je ne sais plus si j'ai parlé par exemple des statues au porche sud de la cathédrale de Reims, qui sont tout à fait romanisantes, parce que il y a pas eu la rupture dont parle Pétrarque, mais lui il n'est pas sensible aux évolutions qui ont eu lieu, et puis surtout il ne les connaît pas forcément, il n'a pas vu les statues de la cathédrale de Reims. Donc lui ce qu'il voit c'est surtout peut-être l'architecture. Donc,
on ne va pas faire du journalisme d'investigation, mais est-ce que ça veut dire que pour vous Pétrarque a été ébloui, totalement ébloui et aveuglé à la fois par par les vestiges, ce qui était déjà des vestiges à l'époque de Pétrarque, de la Rome antique.
Ah ben oui, ça l'a marqué très très fortement.
Ouais.
Et
Au point
donc,
d'en oublier le reste.
voilà, donc d'en oublier ou d'en méconnaître le reste. Hein, parce qu'il y a de nombreuses évolutions à travers l'Europe. Hein, c'est pour ça que dans l'idée des Renaissances, il faut introduire une idée de temps, une valeur temporelle, c'est-à-dire qu'il y a une succession de renouveaux. Hein, et qui est multiplié par la géographie. C'est-à-dire qu'il y a des renouveaux à certains endroits à un moment donné, et puis à d'autres endroits, c'est un autre moment. Donc ça multiplie les renouveaux. Et pour lui, bien que il ne pense pas qu'on ait complètement perdu le lien avec les textes latins et grecs, pour lui, le Moyen-Âge a été, et en cela d'ailleurs il n'a pas tort, la grande époque du commentaire, des commentateurs. Et pour lui, il faut revenir au texte. Donc, je reviendrai sur cette idée que je vais exprimer maintenant. Ce n'est pas tant une redécouverte des textes grecs et latins, parce qu'on n'a pas cessé depuis la fin de Rome, de retrouver des textes. Le dernier épisode marquant à l'époque de Pétrarque, c'est le sac de Byzance en 1204, où un pape dont j'ai oublié le nom dit aux croisés: « Je ne vais pas pouvoir vous financer, payez-vous au passage à Byzance. » Donc, il y a un saccage de Byzance, mais il y a aussi, parmi les gens qui sont avec les croisés, les gens qui s'intéressent, des gens cultivés, on dirait aujourd'hui, quoique le mot à l'époque n'ait pas de sens. Et on trouve à Byzance des textes latins et grecs qu'on ne connaît pas encore à ce moment-là en Italie, et on les rapporte. Donc, c'est vraiment un moment très important. Là, on peut parler d'un renouveau aussi, hein. Et donc, cette idée de perte de vue des textes gréco-romains est évidemment erronée.
Alors, on va écouter une première pièce musicale, et puis nous allons revenir sur ces documents qui n'ont jamais été perdus finalement.
Thank you.
Alors Philippe, juste avant cet intermède musical, vous nous disiez que contrairement à ce que Pétrarque avait pu affirmer, et contrairement à finalement une pensée assez commune encore aujourd'hui, bien longtemps après Pétrarque, les textes classiques romains n'avaient jamais été complètement perdus de vue. Et vous citiez notamment le sac de Byzance. Qui illustre le fait qu'on avait pu à ce moment-là retrouver des tas d'éléments de l'Empire romain, bien sûr.
Voilà, les croisés découvrent à Byzance, parce que Byzance n'a pas. Bon, c'est l'histoire des deux Roms, hein, qui intervient très tôt, parce qu'il y a l'époque de Dioclétien, on parle de la tétrarchie, donc il y a vraiment un empire d'Orient, un empire d'Occident. C'est pas étonnant, puisque finalement, je le dis pour nos auditeurs, dans le monde romain, entre guillemets, dans l'Empire romain, mais même avant l'Empire, il y a vraiment deux Roms, entre guillemets. Il y a la Rome orientale, byzantine, qui est enracinée dans la culture grecque, et puis il y a la partie romaine, c'est-à-dire occidentale, qui est enracinée dans la culture latine. Et donc, on sait bien que si l'Empire romain a connu des vicissitudes, à défaut de s'être complètement effondré, comme on le dit, hein, je crois que j'ai déjà parlé de
Bien
ça,
sûr.
hein, l'Empire byzantin, jusqu'en 1453, il perdure. Alors, avec des hauts et des bas, mais il perdure quand même. Il n'y a pas ce pseudo-effondrement qu'on attribue à l'Empire romain d'Occident.
C'est-à-dire l'Empire romain d'Occident, on pourrait dire qu'il Il ne s'est pas effondré, mais disons qu'il a disparu dans la multiplicité des
Oui,
domaines, etc., et puis qui ont finalement amené le monde féodal, alors que Byzance a continué à être unitaire, en tout cas avoir une administration impériale
voilà.
unifiée jusqu'au XVe siècle.
Voilà. Et quand je parle de rupture et de continuité, de discontinuité, vous savez, c'est vraiment important parce qu'on peut dire que la culture romaine de l'Occident, c'est un peu comme une sinusoïdale, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des moments avec des hauts, je citais l'autre fois la Bête Vénérable ou la cour palatiale de Charlemagne avec Alcuin. Donc, il y a une espèce de haut et bas, mais jamais. C'est jamais tout en bas, c'est-à-dire que cette culture-là ne disparaît pas.
Oui, parce qu'on confond évidemment la culture et la dimension politique. C'est-à-dire si l'Empire d'Occident effectivement n'existe plus administrativement, militairement, politiquement, et si l'Empire byzantin, lui, d'Orient, existe toujours, ça n'enlève rien au fait que la culture, y compris dans un empire qui n'existe plus, n'a pas de raison de disparaître au motif que la structure politique qu'il a portée au départ a disparu, elle.
C'est vrai que la disparition de la structure politique, dans des cas comme celui-là, en termes de culture, n'explique pas tout. Hein. Donc, et il ne faut pas en tirer de fausses conclusions. Donc, il y a ce renouvellement déjà vraiment important dû à la découverte des textes à Byzance, dont d'ailleurs Pétrarque va profiter. Hein. Et lui, il ne voit pas les choses comme ça. Quand il est au contact de la culture gréco-romaine, il compare vraiment, il parle du jour et de la nuit, hein, des ténèbres et du soleil. Hein, parce que ce qui est vrai, comme je l'ai dit précédemment, c'est que le Moyen Âge, c'est la tradition du commentaire. Hein, d'ailleurs, ça vient tout simplement de la civilisation chrétienne, avec la mise en parallèle des testaments. Donc, on superpose le Nouveau Testament à l'Ancien Testament et on regarde dans l'Ancien Testament ce qui annonce ce qu'on lui superpose. Et donc, on étend ça à toute la culture. C'est-à-dire que c'est une approche culturelle aussi, pas seulement théologique. Pétrarque fait ce constat et il dit qu'il faut revenir au texte vraiment. Hein.
C'est-à-dire
Mais
se passer des commentaires et revenir à l'origine.
voilà. Même si il y a quelque chose. Quand on commence vraiment à s'intéresser de l'intérieur, à ce moment, à ces prémices de la Renaissance, on peut dire que Pétrarque se trompe doublement parce qu'il n'y a pas rien au moment où il regarde le monde. Pourquoi il le met de côté? C'est parce que par rapport à ce qu'il a vu des restes de Rome, il trouve qu'il y a eu un déclin au fond, hein. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il, encore une fois, il ignore certaines des choses qui se passent à sa propre époque. N'empêche qu'il voit, lui, l'importance de Dante et de Giotto. C'est pour ça que je sais que même vous avez été surpris quand j'ai parlé de Dante et de Giotto, hein, comme prémisse, hein, mais je vais y revenir. Donc, pour lui, il faut vraiment un renouveau et retourner vers les textes. Mais il perçoit que des choses vont se passer. Et au fond, c'est très intéressant parce que on a par un contemporain la perception que du changement du monde. Donc, même si lui, entre guillemets, le caricature en le réduisant des expressions un peu trop systématiques, il est le premier à sentir ça. Et il se trouve que ça correspond à la réalité, puisque quand on regarde, par exemple, l'évolution de la peinture italienne, si on prend Duccio, par exemple, là aussi on revient à Byzance, les peintures de Duccio, les Maestas, par exemple, on a tout à fait l'impression d'être devant des icônes byzantines. Sauf que même du temps de Duccio, ça commence à bouger, puisque dans certaines Maestas de Duccio, dans le fond, il apparaît un fond avec des drapés, parce que la peinture byzantine, au fond, une des choses qui la caractérise, c'est l'absence de fond. D'ailleurs, il y a des historiens de l'art, dont Hubert Damisch, qui ont beaucoup travaillé sur la question de l'apparition du fond dans la peinture. Et chez Duccio, on remarque quand même qu'à un moment, il y a cette préoccupation de s'occuper de l'espace en dehors de l'image, de l'espace restant, et la première solution que lui trouve, c'est de mettre des tentures, ce qui n'existe pas dans la peinture byzantine. Et puis arrive la figure de Cimabue, qui est vraiment un premier grand tournant, et très vite après, Giotto. Et quand on regarde, par exemple, les fresques relatant la vie de Saint François dans la basilique supérieure, on voit bien qu'il est en train de se passer quelque chose. J'ai parlé finalement de cet humanisme qui n'était pas, à proprement parler, une invention de la Renaissance, mais qu'on trouvait, ne serait-ce que par l'invention, hein, entre guillemets, au sens savant du terme, de la figure humaine du Christ, hein, la figure humaine de Dieu à travers le Christ, Théon,
Vous
hein.
aviez dit aussi dans la littérature avec Dante, en quelque sorte, les prémices de l'invention de soi ou la
Voilà,
narration de soi. On
voilà.
va écouter un deuxième morceau de musique et reprendre pour la dernière partie de cette émission juste après.
Thank you.
au fond, ce que vous nous dites, c'est que Pétrarque probablement n'a pas compris que dans cette rupture, qui est effective quand même, il y avait de grandes continuités, parce qu'il n'était peut-être pas assez voyageur et qu'il n'avait pas vu ce qui se passait ailleurs. Vous avez beaucoup insisté à plusieurs reprises, et également lorsque nous avons parlé de la période dite baroque, qui n'est pas si baroque que ça, sur les voyages, les rencontres, les échanges de pratiques, les échanges de points de vue, à la fois dans la peinture, dans la sculpture, dans la littérature. Et Pétrarque, au fond, il est peut-être trop resté chez lui.
Oui, c'est-à-dire qu'il a, il n'a pas vu, justement, je crois que j'en ai parlé dans une des deux premières émissions, que à propos de la circulation de la culture, qui est évidemment vrai à l'époque baroque, mais c'est vrai aussi dans le monde médiéval. Je crois que ça, je l'ai
Oui, tout
dit,
à
hein.
fait.
Et ça, peut-être qu'il ne l'a pas vraiment vu, puisque pour lui, au fond, il fait l'impasse un peu, hein, sur l'époque médiévale, en disant, bon, il faut revenir au modèle.
Mais il faut dire qu'en Italie, l'époque médiévale n'a pas produit beaucoup de nouveaux. C'est pas là que ça se passe.
Bah, par exemple, pour ce qu'on appelle l'art gothique, entre triple paire de guillemets, on voit bien que le siège de l'invention gothique, c'est la France. À tel point qu'on va parler, le terme gothique, c'est Vasari à la Renaissance, justement, hein, un art de barbare. Ce qui est d'ailleurs tout à fait dans la pensée de Pétrarque, au fond. Hein. On ne parle à l'époque que d'Opus Francigenum, l'œuvre française, pour bien. Ça montre bien que c'est un art particulièrement français, même s'il va rayonner sur l'Europe, puisque les bâtisseurs de cathédrales vont aller jusqu'à Prague. Et, bon. Et puis, il y a une belle apogée aussi, ça, les Français ne le connaissent pas assez, une belle apogée du gothique en Angleterre, avec de magnifiques cathédrales comme Exeter, Canterbury et d'autres. Et d'autres. Donc, lui, il voit pas ça, évidemment. Il ne voit pas ça. Ça renforce son idée qu'il y ait un déclin, parce qu'en Italie, c'est vrai que le gothique, il a du mal à percer. Hein. Vous avez, bon, l'endroit où il perce peut-être le plus, c'est dans l'architecture civile, une architecture palatiale, une architecture de palais, c'est à Venise. Si vous vous promenez dans Venise, vous voyez bien qu'il y a des hôtels de style gothique, hein, la Cava Oro, la plus célèbre, hein, on pourrait en citer d'autres. Hein. Mais sur le plan de l'architecture religieuse, c'est assez réduit. Dans un aparté, hein, je vous mentionnais la cathédrale de Milan, Orvieto et Sienne, et puis après, on a du mal à trouver des édifices d'importance. Hein. Et entre parenthèses, la cathédrale de Sienne n'est pas terminée, hein, puisque ce qu'on appelle la cathédrale de Sienne, c'est en fait le transept et non pas la nef. Hein,
Cela dit, pour les Chartreins, l'ignorance ou le presque mépris de Pétrarque pour la période médiévale et notamment la période gothique, c'est presque vexant parce que ici on a quand même un édifice particulièrement remarquable.
Oui. Et je crois avoir dit justement à propos de Charles dans une émission précédente que dans la statuaire, on voit déjà les prémices d'humanisme en notant, en parlant des statues de Sainte Modeste ou de Saint Jean-Baptiste. Donc on voit bien que c'est plus complexe que ça. Mais il y a une partie de ce que pense Pétrarque qui est vrai, parce que l'époque antique, prenons la Grèce et Rome ensemble, c'est l'époque des règles et des canons, que d'ailleurs la Renaissance va remettre à l'ordre du jour. Hein. Le canon de Polyclète dans la sculpture, qui va varier d'ailleurs, puisqu'à un moment, on décide que la tête, c'est un huitième du corps ou un septième du corps. Il y a l'usage des ordres, hein, d'architecture qui règle vraiment l'élévation. Alors, ce que Pétrarque ne voit pas, c'est que même si le Moyen-Âge ne raisonne pas en termes d'ordre antique, mais vous trouvez, par exemple, à Autun ou à Paray-le-Monial, dans la nef, il y a des pilastres avec des chapiteaux. Hein, donc, ce n'est pas totalement ignoré du monde médiéval. Hein. Mais pour lui, ces règles classiques sont vraiment l'apanage de l'art. Et l'art ne peut se concevoir sans la construction de ces règles qui vont permettre le développement et l'épanouissement des arts. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que il va aussi, bon, évidemment, parler d'Horace, et il va faire le lien entre la poésie et la peinture, le fameux vers ut pictora poésis, hein, et c'est-à-dire qu'il ouvre cette idée que Finalement, la culture ne se réduit pas aux lettres, mais qu'elle concerne les autres arts. C'est l'idée d'ailleurs des arts libéraux, hein. Et donc, on va très rapidement assister à l'idée qu'il se passe des choses en littérature, mais aussi en peinture, en sculpture et en architecture. Et d'ailleurs, Alberti va faire des traités sur ces arts. Ça, on y reviendra par la suite, hein.
Merci Philippe Frétinier et à la prochaine émission.